Chers amis, Hachem Alechem Tiahio, les Orechemim Tovim et Shanim Nehemim. Nous poursuivons notre étude Parashat Vaigash. Ezenu Beshem Adonai Yose Shamaim Vaaret. Donc, Vaigash est là, Yehuda. Yehuda s'est approché, s'est avancé vers lui. Qui c'est lui? Ce n'est pas précisé. Vayomer, Bi Adoni, et il dit, de grâce, Seigneur, et d'Aberna Abdecha Davar, que ton serviteur puisse, permet à ton serviteur d'exprimer ses paroles, Beozne Adoni, aux oreilles de mon Seigneur. Et ne te fâche pas sur ton serviteur, car toi, Seigneur, Maître, tu es comme Pharaon. Après, là, Yehuda va retracer toutes les différents épisodes et les raisons et le pourquoi et le comment de toute l'histoire du début à la fin pour arriver à implorer Yosef de le garder. Certes, Benjamin, on a trouvé la coupe dans le sac de Benjamin et il devrait rester esclave chez Yosef. Et il est préférable pour Yosef de garder Yehuda à la place de Binyamin. Donc nous allons voir ça dans le détail. Chachamim indique que le mot Vaigash a trois significations. On a trouvé ce terme-là quand on s'approche pour faire la prière. On a trouvé ce même terme quand il s'agit de faire la guerre. Et on a trouvé ce même terme ailleurs, pour faire un compromis, pour faire un arrangement. Donc, Yehuda, en fait, il s'approche de lui avec ses trois intentions. Donc, la prière, c'est-à-dire, alors, il s'agit de Yehuda s'avance. Certes, il s'adresse à lui, entre guillemets, c'est-à-dire, entre parenthèses, à Yosef, mais si c'est une prière, il l'adresse à Dieu. Si il s'apprête à combattre, alors ses paroles sont proposées, sont destinées à Yosef, et aussi s'il s'agit de faire un compromis. Alors il dit, Vaigash elav Yehuda. Donc Yehuda s'est avancé vers lui, et soudain, c'est comme si que Yehuda n'a pas besoin d'interprète. Alors la question elle est, comment Yosef, le gouverneur, le roi, le vice-roi, celui qui détient le pouvoir, va pouvoir le comprendre. Et il lui dit, voyons, mère Bia Adonis, de grâce, Seigneur, permets-moi de m'adresser à toi et que mes paroles pénètrent tes oreilles. Et ne te fâche pas. Alors, qu'est-ce que signifie d'Idaberna d'avoir Beozne Adonis? Qu'est-ce que signifie que je parle et que mes paroles pénètrent tes oreilles? Alors, on a trouvé cette idée de parler aux oreilles, on parle aux oreilles, que mes paroles pénètrent tes oreilles. On a trouvé ça dans le pasouk. Les ma'an tes saper et d'acherit alalti beozne bincha ou ben bincha, afin que tu racontes ceci. Comment je vous dis que voilà la maca elle arrive. Et afin que tu racontes comment j'ai frappé, je me suis joué des Égyptiens, tu racontes cela à tes enfants, aux oreilles de tes enfants et de tes petits-enfants. Ailleurs, il est dit, après la guerre de Amalek, il est dit, Ketov zot zikaron basefer, je vous redis à Moshe, écris cela dans un livre, et mets-le dans les oreilles de Yoshua. Alors, le terme des oreilles, ça sous-entend que c'est un secret. Alors, quel est le secret ici qu'il lui dévoile? Là, le Hénian, il est ainsi. Quand on parle à quelqu'un, quand on enseigne à quelqu'un, on enseigne à un public. Alors, chaque individu va entendre ce qu'il peut comprendre, ce qu'il peut entendre, il entend une facette de l'enseignement tel qu'il le ressent, tel qu'il le perçoit. Et ce n'est pas obligatoirement tout ce que le maître a voulu enseigner. C'est pour ça qu'il est dit, Moshe kibel Torah mi Sinai. Moshe a reçu la Torah du Sinai. Il n'est pas dit que Dieu a donné la Torah à Moshe. au Sinaï. Pourquoi? Parce que Dieu, il donne. Ce que Dieu donne, ce n'est pas obligatoirement ce que Moshe va recevoir. Moshe va en recevoir une part. Il va interpréter, il va comprendre à sa manière. Parce que c'est un humain. Et c'est comme ça que la Torah, c'est pour cela qu'il est dit, Moshe a reçu. C'est le concept de l'humain. Dieu, la Torah, au niveau de la parole de Dieu, elle a une certaine dimension. Quand elle descend sur terre, elle est transmise. Alors, celui qui la reçoit, il en reçoit une facette. Il en perçoit la dimension qui correspond à la nature humaine, à la situation de l'homme dans ce monde. C'est ça la notion de recevoir. Alors ici, le sens de parler aux oreilles semble signifier que Yehuda, il dit à Yosef, n'entends pas de mes paroles ce que tu as envie d'entendre. Entends le sens profond de mes paroles. C'est ça ce que ça signifie, et que mes paroles pénètrent tes oreilles. Rachid précise, que mes paroles pénètrent dans tes oreilles, c'est-à-dire que mes paroles, tu dois les saisir. L'oreille, c'est la compréhension, comme il est dit, fais tes oreilles comme un entonnoir ouvert, largement ouvert, de sorte que tu puisses saisir, entendre les paroles des sages. Entendre des paroles, ça veut dire les comprendre, les saisir, les maîtriser, les méditer, jusqu'au moment où le savoir, il est totalement acquis. C'est ça le sens des oreilles, c'est-à-dire savoir, comprendre le sens profond de l'enseignement transmis. Et là, a priori, Yehuda parle un langage que Yosef ne comprend pas, a priori. Alors, quel est le sens de cela? Alors, il y a les paroles et il y a l'expression des paroles. Yehuda veut prouver dans son discours, dans le discours, dans sa prière qu'il adresse, sa supplique, il implore, dans l'imploration qu'il a vis-à-vis du maître de l'Égypte, il transmet sa sincérité. Il veut prouver, il veut lui montrer sa sincérité. Et ça va au-delà des simples paroles. Alors, il fait son discours et il dit, nous sommes venus, nous sommes notre père. Alors, pour résumer, comment pourrions-nous retourner chez notre père sans l'enfant alors que notre père nous a mis en garde et que cet enfant-là, il est chéri par lui. Nous allons causer la mort de notre père. Et je ne peux revenir chez mon père sans l'enfant et voir la douleur, le tourment, le désespoir de mon père, je ne peux pas le supporter. Donc il va transmettre à Yosef, il essaie de toucher Yosef au sentiment pour lui montrer qu'en fait cette démarche-là, quand bien même serait-il passible d'une peine quelconque, d'une sanction, mais soit compatissant, soit apaisé, comprends-nous, et essaye de faire un compromis. Quel est ce compromis? C'est que Yehuda remplace Benjamin. Et il lui dit, Ve'al yahar apecha be'avdecha. Que ne te fâche pas contre ton serviteur. C'est-à-dire, comment est-il possible qu'un homme un simple individu ose s'adresser au roi? Normalement, quand quelqu'un a une requête vis-à-vis d'un puissant, d'un roi, alors il transmet sa requête à un préposé, à un ministre ou à un seigneur. Et c'est ce seigneur-là qui transmet la requête. Et là, Yehuda s'avance au-delà. Or, c'est pratiquement une offense qu'il pourrait faire à Yosef. De quel droit t'adresses-tu à moi? Qui es-tu donc pour t'adresser à moi? Tu n'es qu'un simple manant, tu es un simple individu. Un homme du peuple ne s'adresse pas au Seigneur. Il dit parce que toi-même, Yosef, toi, tout Seigneur que tu es, tout puissant que tu es comme Pharaon. Qu'est-ce que le statut d'un roi, d'un puissant, si ce n'est de faire la justice et d'entendre les requêtes? Ça fait partie de sa fonction. Entends mon discours, écoute ma requête, accepte mes paroles, de sorte que tu puisses établir la justice et rendre la justice, la vraie justice, la justice avec miséricorde, compassion. C'est ça le sens qui est dit ici. Et Yehuda, il soulève, il essaye de toucher Yosef au plus profond de son âme par la sincérité de son discours. Ça, c'est le sens de Vaïgash et la Yehuda. Et il lui parle, même si Rashi dit qu'il lui a parlé durement. Ce n'est pas, nous ne sommes pas obligés de commenter le discours de Yehuda comme le font Rachamim, comme si que il est prêt à se battre. Et en fait, quand on lit le sens, les versets, on voit que c'est un discours diplomatique. Et dans la diplomatie, on utilise des termes, on arrondit les angles, mais il y a un sens second on dit les choses les plus dures avec des mots les plus diplomatiques, les plus gentils, les plus conformes. On met les formes. Le Midrash commente un pasouk dans le psaume 48. Il dit Iné, ki iné, amelachim lo adu avru yahdav. Voici les rois se sont rencontrés. No adu, ils se sont rencontrés. Avru yahdav, ils sont passés ensemble, ils se sont liés ensemble, ils sont passés ensemble. Et le mot avru est commenté dans le Midrash comme étant la colère. Avru, ça fait référence à Evra, la colère, le courroux. Alors l'un s'est rempli de courroux et de colère, de dureté vis-à-vis de l'autre. Et c'était réciproque. Donc ils vont expliquer, les Chachamim, le dialogue, la discussion de Yosef, de Yehuda vis-à-vis de Yosef, comme étant un combat. Parce que les deux sont des rois. C'est-à-dire qu'ils se mettent, que Yehuda se met au niveau de Yosef. Alors, dans le concept, dans la situation donnée, Yehuda n'est qu'un simple individu, un étranger, qui n'a aucun statut, qui n'est rien, et Yosef est au sommet du pouvoir. Il est le roi. Donc, normalement, Yehuda ne parle pas. Et là, quand il s'avance, il se met à son niveau. Donc, il se met à égalité. Et c'est ce qui est mentionné dans les rois se sont rassemblés, se sont réunis, se sont rencontrés. Yehuda allant à la rencontre de Yosef. Mais dans l'inconscient, dans Yehuda, il ne sait pas qu'il s'agit de Yosef, a priori. Alors, mais comment Yehuda considérait Yosef? Pourquoi l'a-t-il vendu? Alors sur ça, il dit que Yehuda, il se considérait Yosef comme un usurpateur, donc ils l'ont exclu de la famille. Et là, tout d'un coup, il le remet à sa place. Donc il s'adresse à lui inconsciemment. Yehuda, voulant se placer au même niveau, à égalité avec Yosef, fait en sorte, en vérité, dans cette attitude se cache quelque chose d'autre, qui va se dévoiler plus tard, que Yosef, qui était considéré exclu de la famille, rejeté, relégué, tout d'un coup il prend la place. Yehuda lui concède la place qui lui revient, il devient son égal. Ça, c'est ce qui est caché derrière cette démarche là. Alors qu'est-il dit? Il y a la finalité, c'est de faire un compromis. Vaïgash, ça signifie la prière, comme nous l'avons dit. Donc en fait, ici, il s'adresse à Dieu, tout en adressant ses paroles à Yosef. Mais comme Yosef n'entend rien, ne comprend rien a priori, alors il s'adresse à Dieu. Et qu'est-ce que Yosef devrait comprendre? Il devrait entendre ou sentir, ressentir la sincérité dans les émotions que Yehuda met dans son discours. Cette notion-là, elle est mentionnée dans, dans la prière, c'est que le son, il y a dans la parole que nous adressons à Dieu, il y a le son même de la voix, et il y a les paroles. C'est-à-dire que si quand on implore, alors la voix, si on arrivait à effacer les mots, et si on était capable que de laisser uniquement le son de la voix, si c'était possible, alors à travers le son de la voix de celui qui prie, on comprendrait son discours. Donc la voix, en fait, elle a une puissance beaucoup plus puissante que les paroles elles-mêmes. Elle va au-delà. Donc c'est cette dimension, le Zohar dans les Tikkuni à Zohar au début, il dit que le son correspond au nom de Dieu Yud-Ké Vav-Ké, donc il est à un niveau extrêmement haut, alors que la parole est habillée dans le Shem Adanut, Aleph Dalet Nunut, qui est un niveau bas, qui est le niveau qui correspond au monde ici-bas. Donc quand nous prions, nous associons les mots au son. Donc c'est la conjugaison des deux éléments qui fait que la prière, c'est-à-dire que le son, la voix, va élever les mots jusqu'au niveau le plus haut, jusqu'à pénétrer le palais du roi et atteindre le trône divin. Et c'est cette partie-là, si on veut que Yehuda, donc Yosef, va entendre le son de la voix. Il va pas entendre les mots qu'il dit, mais le son de la voix. Donc c'est l'expression de toutes les émotions, de la sincérité. Et c'est au niveau du son du shofar. Le son du shofar de Rosh Hashanah n'étant pas autre chose qu'une prière sans mots. Elle a un niveau, une puissance extrêmement très très puissant, très fort, et parvient à faire basculer le jugement. Et c'est ce que nous disons, Allah Elohim Bitroa Hashem Bekol Shofar. Au début, au son de la Teruah, le Dieu de rigueur s'installe sur le trône de justice, et tout d'un coup, c'est le Dieu de bonté qui se retrouve assis le jour du jugement. Donc c'est cette notion-là qui est mentionnée ici. Et que dit Yehuda? Alors il retrace toute l'histoire. Et il indique que voilà, le père, le vieux père, est-ce que si il est attaché à cet enfant-là, et si l'enfant ne retourne pas chez son père, alors c'est une catastrophe pour le père. Comment pourrais-je assister au désespoir de mon vieux père qui se laisserait mourir, qui serait dans le désarroi total, et la raison de vivre, il perdrait toute raison de vivre. Je ne peux pas assister à ce tourment de mon père. Je ne peux pas y assister. Donc il implore. Et cette notion-là, Yosef la ressent, cela. C'est ça le message. Et c'est pour ça, Vaya Kiroto, alors il lui dit à la fin, voilà, moi, personnellement, je suis le garant du petit frère. Et j'ai garanti à mon père de le ramener. Donc, si je le ramène pas, c'est une faute totale. Ve'ata yeshevna. Alors, il dit, maintenant, tiens, faisons un compromis. Certes, le Benjamin, il est passible d'esclavage. Il devrait rester là. Mais tu as plus intérêt, toi, Seigneur, de me garder à moi que de le prendre parce que je suis plus fort. Je suis plus fort à la guerre. Et si c'est pour travailler, j'ai plus de force. Donc, je peux te produire beaucoup plus que Benjamin. Donc, est-ce qu'on va parvenir à ce compromis? Alors, la troisième dimension du mot vaïgash, qui est le combat. Alors, l'homme s'avance, c'est comme un duel ou un combat de gladiateurs. Là, avance vers l'autre. Donc, il avance vers son adversaire. Il dit, et si le compromis n'est pas possible? Et si tu n'acceptes pas ce compromis, alors nous allons nous retrouver dans une impasse. Nous ne pourrons pas aller retourner sans l'enfant. Alors c'est sous-entendu. Alors tu veux la guerre. Et c'est en entendant cela, Velo Yachol Yosef Litapek Lechol Anisavim. Donc il fait sortir tout le monde. Il ne peut plus supporter parce qu'il voit jusqu'où est prêt à aller Yehuda. Et il ressent il entend la supplique de son frère. Il l'entend. Donc il a compris le message. Donc bien qu'en fait, si le père était mort, ils auraient laissé Binyamin. Quand ils vont rechercher, c'est un point très important, quand eux-mêmes vont rechercher Yosef, comme nous l'avons dit la première fois, qu'ils descendent, chacun d'une, ils rentrent par une porte, chacun, ils sont séparés, chacun, ils se dispersent pour essayer de le retrouver. Donc ils ont dit, on va le retrouver. Ils ne veulent pas retrouver Yosef pour Yosef. Ils veulent retrouver Yosef pour apaiser la douleur de leur père. Et là, ils ne cherchent pas à sauver Binyamin pour Binyamin. Ils veulent sauver Binyamin parce qu'ils ne supportent pas de voir leur père dans le désespoir et mourir de désespoir. Donc en fait, ils veulent sauver Binyamin pour le père. Et ce niveau-là n'est pas encore le niveau total de la rédemption, mais les choses vont être amenées par le dévoilement de Yosef, qu'ils vont prendre véritablement conscience du niveau de Yosef, qu'ils ne peuvent faire autrement que de reconnaître que Yosef, il est un incontournable, sa position est incontournable. C'est ce que Yosef va dévoiler immédiatement. Juste à l'instant, il dit « Je suis Yosef ». Et là, ils se remettent, l'histoire défile sous leurs yeux, et tout d'un coup, l'histoire défile, ils se sont prosternés à lui, c'est lui qui les nourrit, donc il a la réalité, « Vaïgash Elav Yehuda ». Soudainement, Yehuda prend conscience qu'en s'avançant vers lui, ce n'est pas lui qui s'est mis au niveau de Yosef. En tant que lui qui devrait être un étranger qu'il n'a, de quel droit s'adresse-t-il au roi? Alors il dit, je suis que moi aussi un roi. Il s'avance. Mais en fait, en s'avançant, il rétablit Yosef dans sa véritable dimension, dans ce que lui, il lui avait usurpé, ce qu'il lui a pas reconnu. Yehuda n'a pas reconnu la position de Yosef en tant que dominant les frères. Parce que nous avons dit que Yosef, il est la continuité du père. Et d'ailleurs, c'est pour cela que les frères ne le comprenaient pas, puisqu'ils se disaient, celui-là, il est notre petit frère et il croit qu'il est notre chef. Il est au-dessus, il n'est pas notre père. Et en vérité, Yosef est la continuité du père, comme il dit, il est Toldot Yaakov, Yosef. Yosef, c'est le Yesod, qui fait que les frères peuvent s'épanouir, se réaliser. Et tout d'un coup, Yehuda prend conscience de cette dimension de Yosef et il accepte. Donc c'est ça l'idée de la vente de Yosef. Cette situation-là est telle que ce qui paraissait leur est imposé par le discours de Yosef avec ses rêves et la position de son père, que le frère, c'est l'enfant préféré, etc. Donc c'était une imposition. Tout d'un coup, la chose, devient naturelle. C'est eux qui l'acceptent. Ils n'ont plus d'autre choix. Ils se rendent compte que c'est comme ça que leur action a amené que Yosef, qu'ils sont obligés. C'est eux-mêmes qui ont placé Yosef dans cette situation-là. Donc, ils sont obligés d'admettre qu'ils se sont totalement fourvoyés. Baruch Adonai Leolam. Amen ve'amen.